vivre autrement. C'est le titre de la première escale de notre exploration iodée de cette journée. Discussion complémentaire aux propos de Jean Viard. Donc on continue à échanger et j'accueille à mes côtés Rodrigue Goulard, dirigeant et fondateur d'Insemita, facilitateur et éveilleur pour une architecture et un urbanisme autrement. On accueille également Simon Davis, vice-président de la fondation AIA Life Designers de Prospective Urbaine sur les sujets liés à la santé et au territoire. Antoine Percevaux est étudiant de l'ESPI, l'école supérieure des professions immobilières. Et enfin, bienvenue à David Lestoux, fondateur de Lestoux et Associés. Oui, on peut les applaudir. On a le droit au jingle qui va bien, hein. Bon, alors le temps court, mais je sais pouvoir compter sur votre efficacité cérébrale. Rodrigue, ça veut dire quoi vivre autrement pour vous, pour le représentant du SINA que vous êtes aujourd'hui?
Alors,
entre autres.
Bonjour à toutes et à tous. Vivre autrement, déjà, je pense qu'il faut statuer sur ce qu'on pourrait appeler l'état de l'art. Ce dont on a hérité, Jean Viard en parlait, à la sortie d'une guerre, il y a une réorganisation du territoire, il y a des politiques locales qui se mettent en place, la DATAR donne des directives sur des zonages, que ce soit où on va travailler, où on va habiter, donc on a tout cet héritage dont il faut prendre un petit peu conscience. On a aussi, à travers cet héritage, différentes crises qui se sont succédées, des crises migratoires, des crises pétrolières, des crises sanitaires, et puis plus récemment, les crises environnementales. Avec les premières consciences, on reprend justement au début des années 2000 et aux accords de Paris, à cette prise de conscience du climat et du dérèglement du climat. Alors vivre autrement, aujourd'hui, est-ce que ma vision d'architecte, d'urbaniste, c'est la même, est-ce qu'elle est partagée par toutes et tous? Je sais pas, je pense qu'on n'a pas les mêmes façons, on en parlait à l'instant, on n'a pas les mêmes façons de vivre à Lille ou à Marseille ou dans le territoire de la Loire-Atlantique. Moi, la question sur vivre autrement, ça m'interroge sur mes besoins, mes envies. En fait, moi, j'identifie à peu près trois piliers. Il y a le pilier, je dirais, environnemental, c'est-à-dire notre relation au vivant, à la nature. Le pilier du corps et de l'esprit, c'est-à-dire notre relation à la santé. Je pense que Simon en parlera mieux.
Il est déjà en train d'acquiescer.
Et puis, nos besoins sur, je dirais, nos usages. On a vu que, justement, les usages, très récemment, ont été bouleversés. On en parle encore régulièrement de la manière d'aller au travail, combien de jours de télétravail. Je pense que ça, dans les mutations du logement, l'évolution du logement, effectivement, ce besoin d'extérieur qu'on a tous eu ensemble, mais il faut pas. Je reviens sur cet effectivement l'héritage qu'on a eu parce que effectivement, on n'a pas tous eu les mêmes conditions le 17 mars, enfin le 18 mars 2020, on n'a pas tous eu les mêmes conditions de vie. Donc forcément, les besoins sont faits ressentir. Aujourd'hui, moi, j'enseigne aussi un petit peu sur la question de la réhabilitation et la rénovation. Il ne faut pas oublier que dans les années 60, toutes ces constructions, tous ces logements ont rendu service. Les gens étaient heureux. Après, une désindustrialisation, un chômage augmentant, donc forcément, il y a une désorganisation du dispositif. Aujourd'hui, si on fait le parallèle avec ce qu'on a pu vivre avec la crise sanitaire, forcément, ce besoin, il est légitime parce que naturellement, on a envie de progrès. On a envie de mieux, de toujours mieux. Donc forcément, on peut comprendre que les désirs des habitants puissent être de nouveau sollicités. Bon, la question sur le vivre autrement, c'est plutôt, je dirais pas du ressourcement, mais je pense qu'on a tous eu cette période en 2020 de questionnement. Jean Viard l'expliquait très bien, hein, sur nos besoins, remettre du sens et de la valeur dans notre travail, quitte à gagner un peu moins, avoir plus de temps libre. Et je pense que ces visions-là, elles sont partagées et elles initient aussi des dispositifs sur la question du projet. Alors souvent, on entend qu'il y a des règles qui arrivent des ministères qui s'imposent. J'avais échangé à plusieurs reprises, j'ai eu la chance de rencontrer Philippe Pelletier, le président du plan bâtiment durable, qui est juriste et avocat de formation, qui m'expliquait en fait, c'est le projet qui doit faire la règle. C'est pas la règle qui doit faire le projet. Donc quand on met tout ça en perspective avec ce désir d'habiter, et c'est très bien, et on a eu beaucoup d'articles aussi sur la revanche des petites villes de demain, ce désir de donner du sens, recréer une communauté, gérer son intimité, bah, je trouve que c'est un moment important, crucial, dont les adhérents du SINA professionnels qui sont comprennent le sens. Moi, je suis toujours un peu critique, forcément, sur les projets, parce que je vois qu'il n'y a que deux modèles d'habiter, en fait. Il y a la maison individuelle et il y a le collectif. Je pense qu'il y a peut-être des zones, il y a des systèmes alsaciens, les family house, c'est quatre familles qui habitent dans un... On mutualise une chaufferie, on mutualise des services, et quand on parlait de densifier les lotissements, quand on aborde ce sujet, il y a les règlements de lotissement qui, à un moment donné, peuvent évoluer. On pourrait, à un moment donné, des grandes maisons de retraite qui ont peut-être besoin de moins, on peut peut-être imaginer recloisonner. C'est ce qui se passe d'ailleurs des villes en secteur tendu. À côté de chez moi, j'ai un jeune radiologue qui a acheté une maison, pas pour y habiter. Il a fait 6 studios parce qu'il a 6 étudiants du CHU qu'il a mis dedans. Donc ça lui permet aussi, à 600 euros par étudiant, d'amortir beaucoup plus rapidement son investissement. Voilà, moi j'ai peut-être...
Merci. Non mais c'est bien, ça dresse déjà un petit aperçu des échanges qui arrivent. Donc habiter, c'est être dans un lieu idéalement choisi, travailler, consommer et puis bien sûr se déplacer pour faire tout ça. Donc on va développer ces sujets avec vous, Simon Davis. Ça pourrait ressembler à quoi une vie allez, idéale, saine, je fais exprès d'employer ce mot-là. En tout cas, ce que vous aimeriez voir se profiler d'après vos recherches au sein de AIA Environnement et AIA Life Designers.
Bonjour à tous. Alors, je trouve cette question à la fois intéressante, mais en même temps, elle m'interroge parce qu'elle sous-tend qu'il y ait une unique manière d'avoir une vie saine. Et en fait, quand on regarde de près la question de la santé globale, pas seulement, bien sûr, l'absence de maladie, mais la question de la santé physique, mentale et collective, la santé sociale, que l'on regarde cette question de la santé aussi, non seulement sur la question de la prévention, mais également sur celle de vivre avec la maladie. Je rappelle quand même qu'on a 15 millions de Français qui, aujourd'hui, vivent avec des maladies chroniques. Il faut aussi penser cette vie saine également pour eux. On prend conscience qu'il n'y a pas de recette pour faire une ville ou un cadre de vie favorable à la santé. Et c'est un enseignement vraiment majeur, c'est que chaque élément qui concourt à notre santé collective va être différent d'un territoire à l'autre. Et que chaque usager a des besoins différents. Et plutôt que de normaliser cette question de la santé dans nos opérations, lui imposer un modèle de vie saine, il faut plutôt donner des clés d'appropriation de ce qu'est la santé dans le projet. Alors, certaines personnes nous ont demandé à la Fondation, vu qu'on travaille sur ces sujets d'urbanisme et santé depuis plus de 10 ans maintenant, de leur dessiner des villes favorables à la santé, des quartiers santé, des bâtiments sains, ce qui interroge pour les bâtiments qui sont à côté, qui sont du coup des bâtiments malsains. Et on s'est toujours refusé un peu à avoir cet exercice de bâticament, des bâtiments qui soignent, pour la bonne et simple raison que cette réponse de la santé, elle doit s'appuyer véritablement sur les singularités territoriales. Et là, les chiffres et les données scientifiques sont très claires sur ce sujet. D'un arrêt de bus à l'autre, on peut avoir une mortalité prématurée qui est multipliée par deux. Les travaux d'Emmanuel Vigneron, notamment en région parisienne, l'ont montré. Et donc, on doit s'attacher véritablement à qualifier ce qui fait à la fois la vulnérabilité des territoires, mais également ces vecteurs de bien-être sur la santé. Alors, ça m'empêche pas de rêver comme tout le monde et de voilà, on a besoin aussi d'idéal pour avancer et de rêve. Donc, j'ai forcément le mien, mais je le partage en disant que c'est pas forcément le vôtre, la norme. Je pense que dans cette ville de demain, finalement, la question du parcours quotidien de nos usagers, elle est fondamentale. Avec l'exposé de janvier, on voit qu'elle va être amenée énormément à être renouvelée. Aujourd'hui, dans nos projets, qu'est-ce qu'on leur propose aux usagers? On leur propose de passer leur palier de porte, d'avoir un long couloir, la plupart du temps non éclairé naturellement, qui les mène vers l'ascenseur, descendre dans le parking souterrain, prendre sa voiture... Souvent dans les bouchons, hein, il y a à peu près 2 vies humaines en équivalent temps qui sont perdues dans les bouchons parisiens chaque jour, hein, donc c'est quand même colossal, et arriver à son travail, à traverser le passage piéton et arriver là. Moi je crois qu'on peut renouveler beaucoup par le projet ces questions des parcours quotidiens. on peut trouver dans ces espaces interstitiels entre le logement et l'extérieur des lieux de sociabilité importants où justement on prendra des nouvelles de la petite mamie qui habite au deuxième et en ce moment c'est la canicule, donc on va faire attention à ce que tout aille bien. On pourra aussi voir la vertu de cette démarche par le nombre de prénoms de voisins que connaîtront les gens dans nos projets. C'est déjà un indicateur qui est assez intéressant à voir, et sans doute avec le confinement, il a été multiplié par 2 ou 3, donc c'est intéressant. On se rendra plutôt à cette maison de proximité, non loin du lieu d'habitation, et on empruntera une trame fraîcheur dont on aura besoin. Qui sera superposé d'ailleurs à la trame de liaison douce, hein, parce que voilà, c'est bien beau de faire des refuges ici et là, mais il faut aussi penser cette question de la trame et du déplacement. Et on aura bien sûr une ville beaucoup plus pensée pour l'enfant, la personne âgée, sur ses déplacements quotidiens. Voilà, bon, ça c'est un rêve, vous allez dire c'est des poncifs, c'est des généralités. On a aujourd'hui des outils un peu plus fins pour regarder ces questions.
Oui, puis je note que vous avez employé le futur et pas le conditionnel pour l'imaginer, cette ville demain. Donc dans vos projets d'aujourd'hui, il y a déjà ces pistes et ces graines qui existent, on peut le supposer en tout cas.
Tout à fait. Alors, à la Fondation AIA, on a travaillé sur ces questions de ville et santé, en réalisant un premier ouvrage qui s'appelle « Bien vivre la ville vers un urbanisme favorable à la santé », qui est sorti en 2015, puis en 2018, qui nous a permis de faire un grand benchmark là-dessus et de cartographier un peu ces questions de santé au travers de la notion de déterminant, ces facteurs qui influencent la santé et qui se cumulent tout au long de la vie. Et depuis à peu près 5 ans, on a décidé vraiment de passer de la théorie à la pratique, et d'expérimenter. Et ce qui est intéressant, c'est que ça révèle un certain nombre aussi d'idées préconçues qu'on peut avoir sur une manière de penser la santé dans la ville. J'en ai plusieurs en tête, mais on a quelques figures du cadre de vie favorable à la santé, notamment l'incitation à l'activité physique. Alors, l'incitation à l'activité physique, on va faire sur nos projets du street workout, une super aire de jeu pour enfants. Bon, il faut être inclusif, donc on va faire plutôt un endroit pour faire de l'activité physique pour vieux. Mais du coup, à ce moment-là, on crée un peu de stigmatisation et c'est des usages malheureusement qui ne trouvent pas preneur du tout. En étudiant un peu plus les choses finement, on se rend compte qu'effectivement, ces incitations à l'activité physique du quotidien, il faut les penser pour ceux aussi qu'on en a le plus besoin, hein, personnes avec des maladies chroniques ou avec des difficultés de se déplacer, et sans tout rendre en accessibilité universelle, c'est savoir ce qui, sur le parcours quotidien de ces gens-là, représente un vrai caillou dans la chaussure.
Un vrai frein.
Et souvent, c'est pas grand-chose, hein, c'est ces petites attentions qu'on arrive à amener dans le projet, juste en faisant preuve de plus d'empathie avec les usagers ou simplement en les mettant autour de la table de conception. Oui. C'est pas la rampe, c'est pas le pourcentage de la rampe nécessairement. C'est des petites choses, voilà, comme la granulométrie du sol, une petite pente, un petit travail à rajouter, et parfois même interroger un périmètre un peu plus large de l'opération pour refaire quelques petits ajustements, ça peut être une idée. Donc voilà, un enseignement, c'est que souvent aussi, inciter à l'activité physique, curieusement, l'un des dispositifs les plus efficaces pour ça, c'est le banc. C'est le banc sur le parcours du seigneur qui va lui permettre de faire une pause. Alors ce banc, il faut le mettre à l'ombre, alors faut pas qu'il soit sombre, pour pas qu'il ait une température élevée au soleil. Mais paradoxalement, c'est le fait de pouvoir s'asseoir qui incite le plus à l'activité physique. Donc voilà, autant d'idées préconçues qu'on mesure maintenant et sur lesquelles il faut bien sûr faire preuve de grande attention. Autre chose aussi qu'amène cette démarche, c'est de désiloter les éléments qui concourent au confort et de les dénormaliser. Je donne un exemple, c'est qu'aujourd'hui on regarde la pollution de l'air d'un côté, le confort thermique de l'autre, le confort acoustique d'autre part. Le fait de considérer une forme d'ambiance globale qui va être sur la façon d'agir, de l'usage avec son environnement, l'ouverture de fenêtres par exemple, voilà, donc comment est la poignée, comment elle incite à ça, c'est autant de pistes qui sont intéressantes pour regarder le caractère multisensoriel aussi de la ville. Et travailler pas le confort comme l'absence d'inconfort, mais comme véritablement des vecteurs positifs pour la santé sur le long terme. En superposant ces trames fraîcheurs, ces trames acoustiques, ces trames de confort thermique hiver et été, et en les superposant aux usages de nos projets, on arrive à des résultats assez fantastique et surtout à des considérations qui sont que la plupart du temps, on peut incarner une pensée dans le projet assez maximaliste en oubliant toute une partie de la population. J'ai l'exemple du village olympique sur lequel on a travaillé, où on avait voilà, un grand projet pensé pour le sport, avec vraiment des activités physiques partout, des terrains de tennis partout, et des espaces publics très fortement dimensionnés. Et finalement, ce qu'a révélé les enquêtes, une dimension un peu sensible aussi là-dedans, c'est ce qui manquait le plus au projet, c'était des espaces un peu avec une échelle un peu réduite pour se ressourcer, pouvoir échapper à cette forte intensité. Donc équilibre, intensité, ressourcement. Donc voilà autant de conclusions et qui amènent à renouveler un peu la pratique du projet dès lors qu'on leur donne de l'importance et de la valeur surtout.
Merci beaucoup, c'est super intéressant. Le temps passe trop vite. Une question que vous auriez envie d'adresser ou un défi, c'était ce que je vous proposais, à tous les professionnels réunis aujourd'hui ici. On ne va pas forcément y répondre, mais en tout cas, la question va être posée.
Alors, j'ai un défi et une question. Je n'ai pas réussi à choisir. Le premier défi, c'est la prise de conscience que à peu près 70% des déterminants de santé, c'est-à-dire les facteurs qui influencent notre santé et se cumulent tout au long de la vie, sont liés à notre cadre de vie urbain. L'environnement, l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit bien sûr, les modes de vie et les facteurs socio-économiques qui sont fortement impactés par l'acte de bâtir et notre façon de penser la vie. Et donc, sans avoir une responsabilité totale sur ces 70%, les différents métiers qui sont présentés aujourd'hui, les acteurs de la ville, ont quand même une responsabilité significative quand on voit que finalement, le médecin, lui, va agir sur 10% des déterminants de santé. Et donc, le défi peut-être à adresser, c'est de se mettre tous au défi aujourd'hui d'une forme de serment d'Hippocrate de la ville et de se dire qu'on va creuser cette question des déterminants de santé dans les projets et faire un peu comme un médecin, c'est-à-dire baser cette stratégie-là de santé sur un diagnostic, ensuite faire des études, des examens complémentaires en fonction de ce qu'on a débusqué par ce diagnostic, et enfin faire un suivi de notre patient dans le temps, quoi. On doit être des bons généralistes de la ville. Et donc, la question qui me vient ensuite et à laquelle je n'ai pas de réponse aujourd'hui, c'est comment pourrions-nous faire en sorte de donner plus de valeur dans le projet à cette question des déterminants de santé ? Parce que bien sûr, il y a la place qu'ils ont dans le projet, mais aussi la valeur qu'on peut révéler de ces déterminants de santé dans le projet. On a autour de la table des opérateurs, des financiers, des promoteurs. Donc, comment faire cette promotion et lui donner, sacraliser, entre guillemets, un petit peu, ces déterminants de santé dans nos projets.
Merci beaucoup. Je vous propose de garder ça et pourquoi pas les reprendre tout à l'heure au moment d'échanger. Vivre mieux, c'est peut-être vivre mieux ensemble. C'est en tout cas ce qu'on peut entendre entre les lignes, toutes générations confondues. Entre autres, pourquoi pas, ce sujet a amené ACOUPA, littéralement Habitat Coopératif Personnes Âgées, à imaginer une autre façon de vivre en ville lorsque l'on vieillit. Je vous propose de découvrir ensemble ce projet signé, entre autres, Boris Couillot, le fondateur de Titi Floris.
Alors, lorsqu'on a créé ACOPA, le constat initial était le suivant. D'ici 2030, 30% de la population aura plus de 60 ans. Avec la crise sanitaire, récemment, ce qu'on a constaté, c'est que les personnes âgées, une personne sur trois, souffre de situations d'isolement. Concrètement, ça se traduit par la création de maisons partagées à taille humaine qui permettront d'accueillir 4 à 6 habitants qui auront chacun une chambre et une salle de bain adaptée et qui partageront des espaces communs, le salon, la cuisine, mais aussi par exemple une chambre d'amis. L'objectif en effet c'est de favoriser l'entraide entre les habitants, mais aussi avec le voisinage, avec les commerçants du quartier par exemple. C'est également de permettre aux habitants de vivre une vie collective choisie et non subie. Les premières maisons, elles ouvriront en fin 2022 et mi-2024 avec un premier projet à Orvault et un deuxième projet à Saint-Herblain. Pour l'anecdote, à Orvault, on a, pendant la période sanitaire, fait intervenir un collectif d'artistes qui est venu réaliser une exposition de street art éphémère pour justement faire parler du projet ACOPA. L'exposition elle a permis d'accueillir 3000 visiteurs sur 10 jours. Ça a été vraiment un vrai succès et ça nous a permis de rencontrer le voisinage et de commencer à parler de cette future maison, ce qu'elle deviendrait en tant que maison partagée. On a obtenu l'agrément d'entreprise solidaire dès 2019, dès la création de la société. Et en fait, très rapidement, lors de notre première levée de fonds, des acteurs comme France Active et la Banque des Territoires sont venus nous soutenir. Lors de la première levée de fonds, on a 70 sociétaires qui ont souscrit des parts sociales. Et ça, c'est vraiment un message fort, c'est qu'en fait, on fait appel à l'épargne citoyenne pour que ce projet il se mette en place. Aujourd'hui, c'est aussi leur réseau qui nous permet de faire avancer leur projet. C'est aussi le fait qu'ils nous questionnent, qu'ils nous interrogent. C'est vraiment tout un enchaînement d'acteurs qui se mettent autour de la table et qui nous permettent de réaliser le projet. France Active, ils nous ont soutenus avec un prêt à hauteur de 150 000 euros dans la société coopérative. Alors le rêve d'Acopa, ça serait en fait de créer une maison partagée dans chaque quartier ou dans chaque cœur de bourg, là où les besoins sont présents et où les personnes vieillissent et souhaitent vieillir dans leur quartier. Donc ça serait vraiment avoir une petite maisonnée dans chaque quartier. Alors à Acopa, l'envie fondamentale, c'est de se dire comment on peut proposer une nouvelle manière d'habiter aux personnes âgées, mais aussi en fait un choix de vie et un horizon qui soit enthousiasmant pour des personnes qui vont vieillir dans la société de demain.
Voilà, une maisonnée dans chaque quartier. Et on a de la chance puisque Boris Couillot est avec nous aujourd'hui. Je propose qu'on lui transmette un micro, si c'est possible, juste là, pour avoir un petit mot en complément de ce reportage sur ce projet Acopa. Le micro arrive. Merci.
Bonjour à tous.
Un petit mot, juste pour aller peut-être un peu plus loin. Là où on en est, il y a combien de maisonnées aujourd'hui ?
Alors, la première à Orvault, Petit Chantilly, la deuxième à Saint-Herblain, et puis d'autres en Loire-Atlantique, Machecoul notamment, ou dans les réseaux Petites Villes de Demain notamment.
D'accord.
Donc secteur rural ou secteur urbain.
Et il se passe quoi ?
Il se passe quoi ? Bah, il y a en fait aujourd'hui, il va plus y avoir d'EHPAD qui vont se construire. Il y a le rester vivre à domicile qui s'installe. Mais en fait, nous, ce qu'on veut proposer, c'est un vivre chez soi dans une maison partagée. C'est-à-dire que on va avoir des studios chambres qui vont donner sur des pièces de vie communes. Et le lien social, le participatif va se créer. Et l'idée, c'est de ne pas tout monétiser aussi, contrairement à des résidences services autonomie. Oui. C'est de créer les conditions du participatif pour que finalement le coût du logement et des services pour l'accompagnement, puisqu'on est bien dans de l'habitat accompagné, reste financièrement accessible à au moins la classe moyenne, on va dire.
On vous sortez une vraie réponse.
On n'est pas dans le logement social, je voulais le préciser.
C'est ça. Je voyais Simon réagir en se disant « Waouh, c'est vraiment super ». N'hésitez pas à prendre un micro aussi pour... Et si on a fait un juste à côté.
On se verra après.
Oui, c'est ça. On pourra échanger plus longuement, mais en tout cas, voilà, sur ce projet Acopa. Eh bien, merci beaucoup,
merci,
Boris, qui
merci
reste avec nous.
Hein,
donc, n'hésitez tout pas à poser des questions.
Et d'un point de vue urbanisme, c'est aussi la limitation de l'expansion des villes. C'est libérer du foncier, des maisons qui sont occupées, des grandes maisons occupées par des personnes âgées qui vivent seules, pour finalement réduire la surface utilisée par chacun voilà, dans
c'est
la
ça.
Ville.
Il y a aussi ça comme dimension. Merci Boris. Rodrigue, une réaction puisque le micro est là. Comment on peut envisager l'activité professionnelle notamment et puis tout au long de la vie, le parcours dans ce monde en plein mouvement ?
Alors ça fait plaisir de voir des initiatives comme celle d'Acopa. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'on n'est pas dans cette culture, encore cette culture, elle est naissante, du logement participatif, de la fabrique du projet. On parlait tout à l'heure avec Jean-Biard d'un idéal à construire ou d'un besoin par rapport à une communauté qu'on a envie de concevoir. C'est un mouvement qui est né aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, il y a quelques exemples d'expositions à Paris sur les mouvements en Autriche. C'est un mouvement qui est né en Suisse dans les années 80 avec la pénurie de logements qui a été initiée par le mouvement Kraftwerk, donc rien à voir avec le groupe de musique électronique. Mais en fait, ils sont partis d'une communauté sur négocier, ils étaient déjà sur des problématiques qu'on va rencontrer très prochainement qui étaient la transformation de terrains pollués pour en faire du logement de qualité. Et c'était des communautés où il y avait, ils allaient assez loin, c'est-à-dire qu'il y avait des jeunes étudiants, des personnes âgées, des professions libérales. L'architecte de l'opération a habité une des opérations. Et il y a eu comme ça plusieurs, sur toute une philosophie. Il y a un livre que je vous conseille, qui est un jeune architecte parisien qui s'appelait Adrien Poulain, qui a fait un livre justement sur le mouvement Kraftwerk, qui est très très pertinent et très intéressant. Et justement, quand on parlait de challenge, aujourd'hui, pour les opérateurs que j'ai pu rencontrer et discuter avec eux, un des challenges, ce serait de se dire... vous avez dans les lignes de la construction d'un bilan différentes lignes. Il y a la commercialisation, il y a tout un tas de lignes. Peut-être qu'il y aurait aussi de se dire, est-ce qu'un projet, ça peut pas être justement, comme je suis en capacité et garant vis-à-vis de banques, de porter un projet coopératif, et quand même il y aurait une décohabitation, dont parlait Jean Viard sur l'histoire des matelas, dans la fabrique du projet, de toute façon, le promoteur est là et est garant. Pour moi, un promoteur doit être promoteur aussi d'idées, et je pense que ça serait intéressant que, sur des petites échelles, à essaimer comme ça des projets innovants, en lien avec du participatif, pour aussi travailler un projet utile.
Merci beaucoup, Rodrigue. On va poursuivre, donc vivre, travailler. Comment le Covid, les confinements et le télétravail ont-ils accéléré nos modes de fonctionnement? Les lieux peuvent-ils s'adapter? Si oui, comment? On s'est dit que pour évoquer ce sujet, il pouvait être intéressant d'avoir le regard d'un futur professionnel. Antoine Percevaux est étudiant à l'ESPI, l'École supérieure des professions immobilières. Bienvenue, Antoine. Le micro marche.
Parfait.
Super.
Bonjour.
On va peut-être d'abord prendre le temps de préciser ce que vous faites et surtout, oui, pourquoi vous avez fait ce choix d'études après un parcours qu'on peut qualifier de riche, richement atypique.
Oui, je m'appelle Antoine Percevaux, j'ai 26 ans, je suis en master MIDI, management de l'immobilier durable dans le groupe ESPI et actuellement en stage au sein de la cité administrative de Nantes à Bouygues Construction. J'ai un parcours atypique. Un mix de théorique et pratique, avec notamment une expérience en initiale dans le domaine de la finance et deux années de CAP chez les compagnons du devoir.
Dans quel domaine ?
Dans le domaine de la menuiserie. Et par choix et par affinité avec le bois, notamment. En fait, mon master MIDI a été en quelque sorte la synthèse, mélangeant immobilier et développement durable, et en mettant en valeur également mes deux années d'apprentissage. Et on l'a abordé tout à l'heure le terme de sens, et c'est ce parcours est le résultat d'une quête de sens dans l'exercice de mon futur métier.
Est-ce qu'on peut profiter de votre présence pour avoir une première impression globale sur ce qui se profile pour vous en tant que futur professionnel dans ce monde de l'immobilier et de la construction?
Il y a deux sujets qui me semblaient importants. C'est la capacité de résilience des acteurs de l'immobilier et également l'efficience des constructions. Alors, par capacité de résilience des acteurs,
qu'est-ce que vous mettez derrière cette résilience?
La capacité des acteurs et l'investissement finalement des acteurs, la différence d'investissement des acteurs, à commencer par le maître d'ouvrage, dans la transition écologique. Je m'explique. J'ai le sentiment que le prix et les délais aujourd'hui régissent les choix et que finalement la transition écologique ne se fera qu'au rythme des obligations réglementaires. On visualise un constructeur responsable de son bâtiment pendant 10 ans. Et on estime la durée de vie d'un bâtiment à 50 ans, alors que celle-ci devrait être nettement supérieure. Alors, je posais la question, mais pourquoi ne pas déterminer le prix et le coût du bâtiment sur la globalité, la vie totale du bâtiment, et en intégrant également les externalités positives et négatives?
Un peu une analyse de la chaîne de vie d'un bâtiment, finalement.
Exactement. Et définir le prix en fonction de cela. Et le deuxième point que je voulais aborder, c'est donc l'efficience de la construction, principalement au XXe siècle, mais avant qu'on ne parle de bilan carbone ou de réchauffement climatique, le choix des matériaux était principalement des choix esthétiques, d'harmonie urbaine ou encore des choix économiques, principalement également dans les grandes métropoles ou dans les régions urbanisées. À l'inverse, dans des régions où le climat est nettement plus hostile, à l'image du nord du Chili où il y a de fortes températures, les constructions et le choix des matériaux étaient réfléchis sur leur utilité et moins sur leur esthétisme, avec l'utilisation de la paille ou de l'argile en isolant, ou encore pour les faibles températures, on a l'exemple de l'igloo qui est assez parlant, qui permettait d'avoir une température quasi neutre alors qu'il fait très froid à l'extérieur. Et En fait, on parle beaucoup de bioclimatisme, de bons matériaux au bon endroit. Je pense qu'il faut aussi parler de matériaux utiles. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important de finalement rendre esthétique ce que l'on cache aujourd'hui afin de permettre une économie de matériaux et également de réduire son empreinte carbone.
L'utilité avant l'esthétisme.
Oui.
Vous avez mené une enquête maison, on va l'appeler comme ça, spécialement pour nous, avec une question: quel espace de travail pour demain? Juste, on peut avoir un petit aperçu des résultats de, ouais, de ce travail qualitatif, on peut l'appeler comme ça, plutôt que quantitatif.
Oui, j'ai interrogé 6 personnes en apprentissage autour de moi, et ce qui leur sort, c'est que le monde du travail et les bureaux de demain doivent être pensés comme un écosystème lumineux, aéré, un espace de partage et de coopération, tout en ayant la possibilité de s'isoler pour pouvoir se concentrer. Mais cet espace doit permettre et faciliter les bonnes pratiques et inciter justement à celles-ci. Et on en parlait tout à l'heure avec le télétravail qui se démocratise. Pourquoi ne pas envisager demain le coworking à domicile et intégrer dans les constructions?
Je crois qu'il y a déjà des expériences qui existent.
Et intégrer dans les constructions, comme on pense à un local vélo, la possibilité d'avoir des bureaux ou des espaces que l'on puisse réserver, car bien sûr, pour ceux qui peuvent faire du télétravail, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un bureau à son domicile ou un espace calme pour faire une réunion. Et donc, dans sa résidence même, avoir cette possibilité de réserver une salle de réunion.
Merci beaucoup. Une dernière question que vous aimeriez poser aujourd'hui à l'Assemblée.
En tant que jeune, quelles sont les compétences, quelles compétences recherchez-vous pour effectuer cette transition écologique?
Merci pour cette question. On va la laisser également flotter au-dessus de nous. On va compléter vos regards par un autre reportage en entreprise. Il s'agit d'un éditeur nantais de logiciels pour les experts comptables, RCA, fraîchement installé dans de nouveaux locaux où la question des usages a été largement repensée. Je vous propose qu'on fasse une petite visite de Nova West.
Alors RCA, on est éditeur de logiciels pour les experts comptables. On développe des solutions pour les cabinets d'expertise comptable et aussi pour leurs clients entreprises, TPE et PME. Nova West est un nouveau bâtiment. C'est le quatrième dans l'histoire en fait, d'RCA. On a toujours été basé sur cette zone. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui l'ambition de déplacer en fait l'ensemble des équipes sur ce nouveau bâtiment, Nova West, sur cette zone à proximité du Zénith, sur Nantes, pour que l'on puisse en fait accueillir et travailler dans de bonnes conditions. Alors déjà, le Covid, ça a été une catastrophe non prévue, que tout le monde a subi, RCA aussi. Mais chez RCA, on était prêt avant en fait le Covid. C'est-à-dire qu'on a pu, du jour au lendemain, mettre tout le monde à la maison, dans de bonnes conditions, et conserver notre capacité de production pour pouvoir développer des nouvelles solutions pour les experts comptables. On est encore en fait sur les derniers aménagements du bâtiment, mais tout se passe très bien pour le retour de nos collaborateurs sur Nova West. On avait besoin de se retrouver dans un environnement que l'on connaissait. Donc on a repris tous les ingrédients qui étaient présents dans l'ancien bâtiment et on l'a amélioré. Il y a juste quelque chose que l'on a tué, c'est l'open space. On a donc réfléchi à une autre manière de pouvoir aménager notre bâtiment par des espaces dédiés à des équipes, ce qu'on appelle des espaces team. On va retrouver des développeurs, on va retrouver des testeurs, on va retrouver des concepteurs, on va retrouver en fait des gens qui fabriquent nos solutions informatiques. Donc ils ont leur espace dédié et aménagé. On a souhaité également renforcer la partie collaborative avec des espaces de coworking qui sont ouverts pour créer de l'échange. On a eu le besoin de recréer un certain nombre en fait, de box. À partir du moment où on veut s'isoler pour travailler en petits groupes, on a besoin de petits box de 4-5 personnes, de salles de réunion, d'espaces de convivialité, des espaces polyvalents. Pour moi, dans mon esprit, dans notre esprit en fait, de départ, c'était de pouvoir permettre un usage multiple tout au long de la journée. C'est-à-dire qu'une salle de réunion peut être une salle de réunion le matin et l'après-midi, mais peut devenir une salle de yoga, une salle de pratique, de lecture, de repos sur les moments du midi. Avant le Covid, on avait une charte de télétravail qui était déjà basée sur deux jours de télétravail par personne, par semaine. Donc on s'est appuyé dessus, on a juste eu le souci de pouvoir renforcer les outils collaboratifs pour que les gens, en période de confinement, puissent travailler dans de bonnes conditions et puissent éviter l'isolement. Le Flex Team chez RCA, c'est synchroniser les équipes par rapport à une présence au niveau du bâtiment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le cadre du Flex Team, deux jours par semaine, on a des équipes qui reviennent entièrement pour pouvoir collaborer, mais surtout se synchroniser. Parce que quand on est en fait à distance, on est plus productif, mais on est moins dans la cohésion en fait d'équipe. Donc deux jours par semaine, ça permet vraiment de recaler l'équipe par rapport aux différents sujets qu'ils ont à traiter. On a des espaces arborés qui permettent de pratiquer le sport. On a également un accueil au niveau des restaurants. Et puis on a une proximité avec l'un des plus grands centres commerciaux de Nantes. Tout ça concourt à l'attractivité générale de RCA pour pouvoir attirer de nouveaux talents et garantir un développement de nos solutions logicielles. On a souhaité ce bâtiment pour renforcer l'ADN qui est l'esprit d'équipe chez RCA. On a besoin aujourd'hui d'avoir un bâtiment qui nous représente, qui engage nos valeurs et qui puisse attirer de nouveaux talents tout en conservant un espace de vie et d'équilibre par rapport aux équipes. Donc on en est très satisfait aujourd'hui. Donc un beau siège social.
Voilà pour cette illustration pour les locaux Nova West de RCA. Alors on a parlé de ville, de la façon de travailler, de vivre et de vieillir sur un territoire. Je vous propose de nous intéresser à nos comportements en matière de consommation, en regardant aussi de près leur évolution. Et on a de la chance, David Lestoux, expert des usages, commerce et villes de demain, est avec nous, auteur d'un récent ouvrage qui s'appelle « Préparer aujourd'hui le centre-ville de demain ». C'est le deuxième opus d'une réflexion déjà engagée en 2016 avec un premier livre. Un peu comme un chroniqueur, il nous propose son regard sur ses façons de consommer demain avec les changements majeurs qui sont déjà là finalement. J'allais dire qu'ils se profilent, mais non, ils sont déjà là.
Ils sont déjà là, ils sont déjà en cours depuis une dizaine d'années. On vit une révolution commerciale et on va vivre une révolution commerciale dans les 10 prochaines années qui est à peu près de la même puissance que celle qu'on a connue dans les années 60-70, lorsque les premiers supermarchés et premiers hypermarchés sont arrivés. Parce que finalement, des années 70 jusqu'au début des années 2000, on a fait à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on a essayé, plutôt que réussi, d'équilibrer périphérie et centre-ville, et surtout, on a produit beaucoup de mètres carrés commerciaux. Juste un titre d'exemple, si on prend les 10 dernières années, en tout cas, on va prendre la décennie 2010-2020, les mètres carrés commerciaux ont augmenté de 26% si on prend les régions de l'ouest de la France. La population sur la même période a augmenté de 2,6%. C'est-à-dire qu'on a construit des mètres carrés à un rythme 10 fois plus rapide que la croissance de population. À un moment où le consommateur, il a dit quoi avec le digital ? Il a dit, finalement, moi, je vais consommer de moins en moins dans les magasins qu'on construit. Finalement, là, on a les fondamentaux de la révolution commerciale qu'on va connaître sur les 10 prochaines années. Et juste pour l'illustrer, cette accélération du changement. Tout à l'heure, vous parliez de bancs publics pour les personnes âgées. On travaille, nous, majoritairement pour la commande publique à 90% et aussi pour quelques boîtes privées. Et l'an dernier, il y a une boîte privée qui nous a demandé de travailler sur la refonte de leur gamme en mobilier urbain. Et en particulier sur les bancs publics, cerner quels étaient les besoins des citoyens en matière de bancs publics. Donc on est allé s'asseoir sur des bancs publics avec les gens qui les utilisent pour savoir quelles étaient leurs attentes en matière de confort. En fait, la première demande pour un banc public, c'est de pouvoir recharger le téléphone portable. Et la deuxième demande, c'est si possible d'avoir de la Wi-Fi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le téléphone portable est devenu un sixième sens. C'est-à-dire qu'on connaissait les 5 sens de l'être humain, ben, il y a un sixième sens, c'est le téléphone portable. Mais ça veut dire que si le téléphone portable devient un sixième sens, qu'il est connecté, ça veut dire aussi que le M-commerce va se développer. Hein, je vais prendre juste un exemple pour bien qualifier les évolutions du digital. Si on prend l'équipement de la personne prête à porter, avant la crise sanitaire, c'était 15% de part de marché pour le digital. Fin 2020, on était à 21%. Fin 2021, on est à 24%. Et les premiers chiffres du premier trimestre 2022 nous montrent qu'on est passé quasiment à 26%. L'un des sujets, ça va être de se dire comment on va imaginer les linéaires commerciaux de demain, et donc aussi les zones commerciales de demain, alors qu'on n'a jamais construit autant de mètres carrés et qu'un consommateur qui va consommer de moins en moins dans les mètres carrés qu'on construit. Donc là, on va avoir un défi. Ce qui fait que lorsqu'on travaille actuellement là, avec le ministère sur un sujet qui s'appelle « Réinventons la périphérie », alors au niveau du ministère, on ne dit plus périphérie, on dit « entrée de ville » maintenant. Il faut le savoir. Donc sur ce groupe de travail « entrée de ville », on est plusieurs experts à avoir travaillé et tous, on estime qu'en 2030, on aura entre 20 et 25 millions de mètres carrés commerciaux de trop sur les espaces de périphérie. C'est à peu près entre 15 et 20% du parc. Alors, à l'heure du ZAN, ça nous donne quelques réserves. On sera peut-être pas riche d'avoir du foncier demain, on sera peut-être riche d'avoir des friches. Et certainement qu'il va falloir faire muter les zones commerciales sur d'autres fonctions. Ça, c'est un premier élément. Autre élément, en début d'année, il y a une boîte qui a déposé bilan, c'est la société Caddy. Bah ouais, c'est aussi un symbole de l'urbanisme commercial construit dans les années 70. Et j'ai pris attache avec les dirigeants de Caddy pour comprendre effectivement aussi les questions. Ils nous ont dit, bah, c'est tout simple. Hier, dans un hypermarché, on avait 100% des gens qui prenaient un Caddy. Et aujourd'hui, on a à peu près 60% des gens qui prennent un trolley. Mais derrière ça, il y a un changement sociologique dont j'en viens à reparler tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, sur des territoires comme les nôtres, on a à peu près 40% de la population qui vit seule. Donc le caddie qui a été conçu pour les achats hebdomadaires d'une famille de deux enfants et de deux adultes, qui était le modèle, puisque le modèle sociétal change, automatiquement le modèle commercial va changer. Et c'est pas pour rien que les hypermarchés perdent de la part de marché depuis à peu près une dizaine d'années. Et on va être dans une autre logique. Hein, et les changements sociologiques vont l'accélérer. Et puis, comme beaucoup d'entre nous, j'ai fait un plein d'essence ce matin à 2,15 € le litre. Et puis je crois que ça va venir accélérer un autre changement, c'est que le commerce depuis 30 ans, 40 ans s'est construit par une histoire de zone de chalandise. On attire à 30-40 minutes, donc on dimensionne le commerce par rapport à une zone de chalandise secondaire, tertiaire, quaternaire qui faisait qu'on allait chercher des gens. Improbable, il n'y a plus que IKEA qui tire encore assez loin. Mais plus personne fera 30 minutes de bagnole pour venir faire ses achats demain. Donc l'enjeu pour le commerce ne sera plus obligatoirement de s'agrandir pour tirer loin. Le sujet va plutôt être de densifier les zones primaires de chalandise. Et c'est pour ça que lorsqu'on est en Allemagne, par exemple, je travaille beaucoup en Alsace et on va souvent voir ce qui se passe en Alsace, en Allemagne, pardonnez-moi, Lidl construit des logements au-dessus de ses supermarchés aujourd'hui. Alors ça commence en France, on commence à voir le modèle. Mais je pense que la zone commerciale demain, elle sera habitée. Parce que de toute façon, on ne pourra pas faire autrement pour recycler les friches et parce que les opérateurs auront besoin de zones primaires de chalandise. Et puis les opérateurs qui vont réfléchir aussi à savoir comment diversifier les usages. On ne fera plus 30 minutes de voiture pour faire ses achats. Par contre, je pense qu'on fera 30 minutes de voiture pour aller voir un médecin. Et donc, on va rentrer dans un modèle où le commerce qui drivait les déplacements, ce sera le médical qui drivera les déplacements. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a pas mal d'opérateurs qui commencent à vouloir faire changer et transformer les galeries marchandes en galeries médicales. Ce qui n'est pas sans poser de questions, et dans mon ouvrage, d'ailleurs, je l'aborde. Est-ce que la zone commerciale n'est pas en train de devenir un centre-ville bis ? C'est aussi un sujet qu'on aura à gérer demain, quand on regarde, même sur la métropole nantaise, quelques évolutions de ce côté-là. Donc on va arriver dans un changement majeur. Un changement majeur qui va se traduire aussi par l'accélération de la logistique. Oui. Je travaille actuellement beaucoup sur l'OAP commerce de Nantes Métropole. Qu'est-ce qu'on fait des dark stores et des dark kitchens ? Ces lieux finalement dans lesquels ne rentreront plus de consommateurs, mais d'où partiront des livraisons ? Est-ce qu'il faut les interdire ? Est-ce qu'il faut les organiser ? Vrai sujet. Mais il est clair qu'à partir du moment où on veut améliorer la désirabilité des villes en diminuant la part de la voiture, il faut bien s'attendre que pour certains achats, qu'on veuille se faire livrer. Et le sujet, c'est bien ça. On aura une nouvelle proximité qui sera inventée demain, avec, je dirais, un commerce de temps subi, où on va vouloir effectivement se faire livrer, économiser du temps pour aller faire ses achats. Et puis à côté, on aura aussi, je trouve que c'est assez intéressant pour le sujet des centres-villes que je travaille beaucoup, on aura un commerce de temps choisi, qui sera le commerce du vendredi après-midi jusqu'au dimanche, où la convivialité sera au cœur de la réflexion. Parce que dans tous les changements sociologiques, que ce soit la senior economy, le fait d'avoir davantage de personnes seules, la jeune génération, la génération Z, eh bien, ont tout un dénominateur commun, la question de la convivialité. Donc l'enjeu, ça va être de se dire comment on va réimaginer le commerce, non plus comme un lieu où on vient faire ses achats, mais un lieu où on va chercher de la convivialité et de la rencontre. Voilà un petit peu les grandes transitions qu'on peut imaginer, en faisant très court, sur la question du commerce.
Merci beaucoup et bravo pour cet esprit de synthèse et qui va déjà dans beaucoup de directions. Rodrigue, un dernier mot avant de clore cette première table ronde et ces échanges et d'entendre notre grand témoin.
Je vais réagir tout de suite au propos de David Lestou que j'entends, que je partage, pour imager un peu les propos aussi, et puis pour échanger dans les groupes de travail du SINA sur les questions du dernier kilomètre, sur ça doit être quoi un pied d'immeuble, la question de l'artificialisation des sols. On a plusieurs visions et j'ai cette image en tête, et pour échanger aussi sur des ateliers de travail qu'on a eu avec Nantes Métropole sur l'analyse des besoins, sur la question des quartiers, sur des zones où j'ai visuellement, comme ça, on a tous cette image du camembert du Trivial Pursuit, où finalement le rose serait la santé. C'est-à-dire comment on pourrait, pour limiter nos déplacements, nos mobilités, finalement on a des zones qui sont notre héritage, j'en parlais en introduction, ici on dort, ici on travaille. Ici, il y a l'activité économique. On se rend compte qu'on arrive à un processus où on va hybrider les territoires, on va hybrider les fonctions. Donc finalement, il y a déjà des travaux engagés sur la métropole nantaise, sur la transformation de zones de chalandise en zones plus mixtes. Demain, peut-être qu'on va habiter, j'en parlais au café, pourquoi pas habiter des parcs tertiaires, ces fameux parcs tertiaires qui sont vidés du confinement. Moi, j'ai grandi dans une zone d'activité économique. Un parc tertiaire, le week-end, c'est très calme. Dès lors qu'on va réduire un peu la voilure sur le besoin en bureau, on peut peut-être transformer des bureaux en logement, mais déjà des parcs tertiaires dans des cadres verdoyants des années 80, qu'il va falloir un peu grader avec la question du dispositif éco-énergie tertiaire. Mais ça peut faire partie des actions où on va pouvoir, comme ça, compléter, je dirais, les offres, les services, et puis limiter, sans forcément habiter le territoire où on travaille, mais finalement, si on commence à diversifier, enfin, à rendre plus mixte tous ces entités, on va pouvoir aussi réfléchir à la question de la mobilité.
Merci beaucoup. Hybridation, hybridité, diversité, biodiversité, ça m'offre une transition parfaite. D'abord, je vous propose d'applaudir et de remercier nos intervenants. Merci beaucoup.